Vous écoutez France Musique.
Che bella cosa una giornata sola.
Bleu câlin, le fleuve est un très fin, et dans le gris de l'Italie seront là sous mon doigt si petit, c'est Napoli.
Napoli, ce que t'es jolie.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Le Matin des Musiciens qui aujourd'hui vous emmène dans le plus bel amphithéâtre méditerranéen à ciel ouvert et avec vue sur la mer. À Naples, la baie magnifique regarde aussi du côté du Vésuve, sérénité menaçante, comme si cela pouvait résumer Naples et les Napolitains. Alors ce que nous allons faire ce matin, c'est de vous emmener dans les rues de Naples afin d'éviter les lieux communs, mais surtout afin de vous faire découvrir quelques pans de la musique qui s'y donne et qui défie beaucoup les catégories de populaire et de savant. Nous parcourrons les siècles en nous balançant entre le 17e, le 18e et le 19e siècle. Ce voyage est organisé par Les Paladins de Jérôme Corias, venus aujourd'hui à 8 musiciens, pour que notre rue musicale ressemble un petit peu à la vie qui anime les rues de Naples. Alors, si vous ne saviez pas quoi faire de votre lundi matin, ne réfléchissez plus, on s'occupe de tout, mais surtout, on s'occupe de vous.
Dans les montagnes en maraude, la fille du contrebandier, sur son petit âne portait en fraude, du tabac dans son petit panier. Elle chantait la ritournelle qu'un gaz avait faite pour elle. Ah, elle s'appelait Oupeta, Petasi, Petala, Peta, Oupeta, Oupeta, la Bella, Oupeta, la Bella, Oupeta, la Mia Bella. Sur son âne elle allait, Petasi, Petala, Peta, Oupeta, Oupeta, la Bella, Oupeta, la Bella, Oupeta, la Mia Bella. De sa voix fraîche elle chantait, coucou, au loin l'écho lui répondait. Quand le petit âne faisait hi-han, au loin l'écho lui répondait la même chose. Coucou si, coucou la, péta si, péta la, l'écho mêlé tout ça à la belle ou péta.
Ce paradis humain, Naples, Napoli, troisième ville la plus importante d'Europe, début 18e siècle. Après Paris et Londres, compte 400 000 habitants. Et c'est sa musique que nous allons voir grâce à vous, les paladins. Jérôme Corias, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes venu avec Artavasde Sarxian, Juliette Roumaillac, Marion Cormaz, Nicolas Krejanski, Franck Ratadjik, Rémi Cassaigne et Jean-François Lombard, qui sont juste devant nous. Un grand bonjour à vous sept.
Bonjour.
Alors un grand merci à vous, les paladins, de venir ici pour animer le studio 118 et surtout ce sujet, Jérôme Corias. Alors c'est vrai qu'en préparant l'émission, il y a une question que je ne vous ai pas posée et que j'ai gardée pour ce tout début de Matin des Musiciens. C'est pourquoi Naples? Est-ce que vous y avez vécu des expériences sonores inouïes dans les rues?
Bon, c'est vrai que Naples est une ville passionnante, dangereuse, hein, comme vous le disiez. En même temps, à chaque coin de rue, il y a des choses absolument merveilleuses et puis des choses absolument sales et épouvantables. Donc, il y a quelque chose de très contrasté. L'esprit napolitain également, c'est une ville où on mange bien, c'est une ville où il se passe plein de choses. Et comme vous le disiez aussi, ça a toujours été une ville très grouillante, une grande ville dès le 17e, 18e siècle. Donc, je n'ai pas vécu d'expérience particulièrement mystique à Naples. Mais c'est vrai que c'est une ville où on voit bien qu'il y a le bruit et la musique qui se confondent. monde. Et c'est une ville où, c'est vrai, il y a le Vésuve, la mort est toujours présente, et qui dit mort dit vie. Donc il y a un culte de la mort qui est quand même très très important depuis l'Antiquité. Il y en a aussi des traces à l'époque baroque qui nous restent encore. Mais il y a quelque chose de très vital, quoi, hein, de très près de la terre, de la mer. La terre est rouge, volcanique. Voilà, c'est tout ce côté très très fort qui m'attire dans cette ville.
Alors justement, la musique, on disait, il y a une expression pour la chanson napolitaine, on en verra justement, il y a des belles musiques qu'on va vous faire entendre, c'est la chanson popolaresca, c'est-à-dire, c'est pas vraiment populaire, c'est quelque chose qui est entre le populaire et le savant. Et ouais, c'est vrai qu'on avance toujours masqué de nos étiquettes, de nos catégories. Est-ce que la rue musicale, qui est en plus un terme très 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 musical, permet d'annihiler cette distinction entre savant et populaire.
Ben oui, c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes très contents d'être là aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de musique populaire, hein, c'est très à la mode, par rapport à la musique savante. Et je pense qu'à l'époque, au XVIIe, XVIIIe et même XIXe siècle, on ne se posait pas du tout la question dans ces termes-là, c'est-à-dire qu'il y avait plein de musique, qu'il y avait des gens qui étaient capables de faire tout à fait les deux, ce qui est plus difficilement le cas aujourd'hui. Et c'est vrai que la musique populaire avait toujours un côté savant, dans la mesure, en tout cas en Occident, dans la mesure où il y avait une pratique, il y avait une grande virtuosité, et il y avait évidemment un support plus ou moins écrit, hein, parfois pas, mais en tout cas la musique savante était bien contente aussi, et ça a toujours été le cas, de s'approprier des thèmes, des rythmes populaires. Donc il y avait vraiment quelque chose de très naturel. Quand on voit par exemple Telemann en Allemagne, qui se saisit en permanence des rythmes polonais, Vivaldi également avec les rythmes de Villanelle, enfin des rythmes italiens, de la terre également. C'est la même chose en France avec Rameau, avec les danses populaires françaises. Enfin, je pense que c'est peut-être, oui, effectivement, aujourd'hui, qu'on parle de catégories comme ça. À l'époque, il n'y en avait pas du tout. Et c'est vrai que notre but, peut-être aujourd'hui, c'est un petit peu d'essayer de travailler un peu avec un minimum de liberté, en essayant de se permettre des choses, mais tout en n'oubliant pas qu'on est évidemment des musiciens dits classiques. Et justement, ce qui nous fait du bien dans la musique populaire, c'est, alors faite par nous, musiciens classiques, c'est-à-dire pas par des musiciens qui font de la musique populaire, c'est justement de conquérir de la liberté et de la souplesse grâce à cette inspiration de musique populaire. Parce que finalement, c'est comme si on nous permettait, vous voyez, c'est comme s'il y avait une instance supérieure qui nous disait « vous pouvez prendre de la liberté, vous pouvez y aller ». Donc c'est vraiment une source d'inspiration extraordinaire.
Est-ce que vous avez déjà monté le Vésuve? Alors je ne sais pas, vous, Jérôme Corrias ou Jean-François Lombard, vous y êtes déjà allé ou pas?
Non, malheureusement, pas encore.
Alors le Vésuve, pas encore, le Vésuve même, mais grâce au funiculaire qui justement a été construit en 1880 et qui a occasionné une chanson assez connue, je pense. Depuis 1880, on peut y aller en train et en funiculaire.
Et pour l'inauguration, justement, cette histoire quand même qui est très connue, Luigi Danza compose ce Funiculi Funicula. Alors vous êtes installés, les paladins, dans le studio 118, et on vous écoute avec beaucoup de plaisir pour ouvrir ce matin des musiciens. Funiculi Funicula, c'est à vous.
Aiare serri una mine marassaiette, tu sai ad os. Ad os tu core in grette chiudi spiette, farlo un po'. Ad os lo fugge cusce ma si fuie, te la sosta. E non tu core fresse non tu struie, sulla guarda. Sarà s'aiutai le essere saiut la cappa già. E giunt po tornate po venute sta sempre ca. La cappa vota vota turna turna a turnate. Stu cor canta sempre nutta l'urne, scusami me.
Dans le studio 118, pour le matin des musiciens, les Paladins, dirigé par vous, Jérôme Coréas, dans ce Funiculi Funicula. Alors, on passera bien sûr du piano au clavecin. Il y a la guitare aussi, napolitaine début 19e de Rémi Cassaigne, hein, qui est un instrument d'origine. Et puis, ce Funiculi Funicula, composé donc par Luigi Danza en 1880 pour l'inauguration du funiculaire du Vésuve. Par la suite, détruit à plusieurs reprises, reconstruit. Et puis définitivement enseveli en 1944 avec des compositeurs comme Strauss ou comme Rimsky-Korsakov ou même Schoenberg qui ont utilisé cette mélodie, parfois d'ailleurs sans savoir qu'elle générait des droits d'auteur. Et c'est intéressant parce que toute la chanson, la canzone napoletana, Jérôme Coréas, début 19e siècle, festival de Piedigrotta, 1839, etc., en réalité est liée au monde de l'édition musicale. C'est-à-dire que c'est aussi une manne financière où on publie énormément de partitions, voix et piano, qui sont achetées par les bourgeois napolitains, mais pas que, et qui sont achetées aussi par les compositeurs. Ouais. On verra avec Rossini, etc., qui achètent ces partitions.
Ouais, et c'est la même chose avec l'opéra, c'est-à-dire qu'en Italie, tout est lié à l'époque avec les grands éditeurs, Ricordi, entre autres, bien sûr, mais qui organisent parfois même des concours, et tout ça fait un milieu dans lequel vendre toutes ces partitions. Et alors, une fois de plus, justement, la musique savante et la musique populaire, bah, ça fait partie d'un même terreau et d'une même culture. Et ça, on le voit quand on va en Italie, d'une façon générale, pas seulement à Naples, c'est que le côté populaire et le côté, je dirais, très savant, très distingué, sont très, très liés, très différemment de la France, évidemment.
Alors, c'est vrai que c'est aussi un répertoire, quand même, où on peut beaucoup se poser la question de comment éviter les stéréotypes aussi, ne pas se laisser enfermer par des choix d'interprétation. On verra, il y a des ensembles comme Antonio Florio qui ont des partis pris esthétiques avec Pino De Vittorio, très napolitain, des accointances donc vocales dans des environnements plus baroquisants, on va dire. Ça crée en tout cas des étincelles. Mais surtout sur la vocalité, on a des enregistrements bien sûr. Vous, comment vous avez réussi à démêler un petit peu cette recherche de liberté sans tomber dans une forme de caricature vocale ? Jérôme.
Ben, tout dépend du choix des interprètes. Alors déjà, c'est vrai que la voix de ténor est très importante à Naples, hein, et c'est vrai que dans la chanson napolitaine, elle est souvent chantée, en particulier dans le genre de la villanelle, par un ou deux, voire trois ténors. C'est une affaire d'hommes, hein, la chanson napolitaine. Les femmes dansent en jouant du tambourin. Il y a plein de gravures là-dessus et les hommes chantent. Et c'est vrai que très souvent, on a des chansons par deux ténors, par exemple. Et donc, deux ténors, c'est assez amusant parce qu'on a l'habitude de faire chanter deux sopranes ensemble, bien sûr. Mais deux ténors, ça n'arrive pas souvent. Là, il y a eu les trois ténors, hein, bien sûr, qui ont été très célèbres dans les années 90. Et ils sont, je crois, partis de cette culture-là, cette culture italienne qu'ils ont essayé d'appliquer à l'opéra. Et donc, ça m'a beaucoup amusé de faire chanter deux ténors. Alors, justement, ce qui nous concerne, deux ténors avec des voix très différentes, puisque Jean-François a une voix de ténor léger, qu'on pourrait appeler ténor de grâce. Enfin, arrête-moi si je me trompe.
Oui, c'est ça, c'est le ténor de grâce ou ténor à la française, ténor au
contre. Ténor de grâce, c'est un terme complètement rossinien. Hein. Oui. Il y a le ténor di forza, ténor di bravura, puis le ténor di grazia.
Oui,
on est vraiment au début 19e.
Oui, ouais. Sous Rossini, effectivement, on chantait d'une certaine manière comme ce qu'on appelle la haute contre au 17e ou 18e en France. C'est la continuité finalement de cette voix-là, c'est-à-dire une voix qui chante avec beaucoup de registres de tête, qui mélange en fait la voix de tête et de poitrine en fait. Et c'est vrai qu'on l'a un peu oublié parce qu'on a maintenant beaucoup d'interprètes rossiniens qui chantent essentiellement en voix de poitrine, aussi pour des raisons acoustiques.
Pourquoi a-t-on mis de côté complètement banni la voix de tête ou la voix mixte ou la voix qui s'arrange de plusieurs registres, c'est quand même intéressant.
C'est très intéressant. Je pense qu'il y a certainement des raisons acoustiques. Les théâtres sont de plus en plus grands.
Alors, San Carlo à Naples, on va justement en parler. Hein. C'est le plus grand théâtre au monde, construit en 1736.
Ouais.
Et effectivement, pour finir donc avec cette histoire de typologie de voix, donc le deuxième ténor, c'est un ténor qui est plus un ténor italien, Artavas, Sarskian, qui est quelqu'un qui a une voix qu'on associerait plus facilement à du Donizetti, du Bellini, mais avec un côté justement assez gouailleur. Et j'avais envie de rassembler deux voix différentes, mais qui pouvaient s'exprimer, qui pouvaient dialoguer. Et c'est par cette différence de couleur qui permet d'explorer beaucoup plus de choses, et on va l'entendre tout à l'heure, que j'ai voulu un peu explorer cette dimension justement populaire, mais d'une musique qui quand même est écrite. Parce que justement, en Italie, comme on le disait, cette musique populaire est écrite.
Donc, alors on va change. Justement vous écouter, hein, parce que du coup, Jérôme, si je vous suis, vous parlez bien de Quanto si contenta un lazzarone, chanté par Jean-François.
Et Artavas.
Oui. Et voilà. Et alors, avant ça, quand même, un petit exemple, parce que c'est intéressant, on n'était pas très loin au niveau chronologique et historique de Funiculi Funicula. Bah, c'est justement une femme, une star des cafés chantants napolitains du début du XXe siècle. Nous sommes dans les années 1910-1920, pour cet enregistrement 1930. Et cette star, c'est Elvira Donnarumma. Écoutez bien comment elle chante. Donnarumma, dans une chanson napolitaine début donc 1930, pas très éloignée, Jérôme Corias, les paladins de Funiculi Funicula, avec une voix, et c'est vrai qu'avec Jean-François Lombard, on se le disait aussi, une diseuse, donc on la met entre Edith Piaf, Yvette Guilbert, mais on a vraiment à la fois une culture opératique, ouais, capable de chanter dans les salles, et c'est ce qui lui est arrivé, hein, à Donnarumma, mais aussi une culture de diseuse, très très forte.
Oui, oui. Mais il n'y avait pas de micro à l'époque. Il faut voir aussi qu'il fallait que les voix soient vraiment projetées, ce qui est toujours plus facile pour les Italiens que pour les Français parce qu'ils ont des voix naturellement plus sonores. Mais là, c'est vraiment intéressant cet exemple parce qu'on a l'exemple de... Mais vraiment, c'est une culture vocale de chanteuse d'opéra et en même temps, il y a toute la gouaille, il y a tout le côté très parlé, l'emploi de la voix de poitrine qui font penser aux chanteuses en France à la même époque. Et là, on est vraiment entre, on va dire, entre l'opéra et la chanson d'aujourd'hui.
Jean-François Lombard.
Oui, c'est vrai qu'on entend qu'elle est évidemment sur le mot tout le temps. Elle utilise beaucoup les résonances de voix de poitrine, ce qui lui donne beaucoup de force évidemment dans la voix. Mais ça s'apparente aussi à ce qu'on peut entendre de certaines chanteuses, par exemple comme Luisa Tetrazzini en Italie, chanteuse d'opéra,
bien sûr,
donc extrêmement célèbre, avec cette utilisation comme ça de la voix de poitrine et de la voix mixte qui permet énormément de couleurs. Et beaucoup de projection aussi, puisque ça donne beaucoup de force à la voix. Et pour nous, c'est intéressant d'entendre ça, parce qu'on vit quand même une période, je trouve, où on a tendance à aseptiser un tout petit peu les choses, parce que le disque, parce que donc il faut que tout soit absolument parfait. Et d'entendre ça, c'est intéressant pour nous de voir comment les chanteurs utilisent le rubato, c'est-à-dire le fait de retarder certaines consonnes ou certaines voyelles, ou alors de les anticiper, c'est-à-dire de ne pas être strictement sur la mesure. Et ça donne des idées, finalement, de ce qu'il faudrait faire et du côté populaire qu'il faut trouver dans cette musique napolitaine que nous faisons avec notre bagage classique, on va dire.
Alors, vous parliez de projection. On va écouter un exemple, allez, un petit peu contraire. C'est Roberto Murolo dans les années 1960.
Scalinatella longa, 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 struttulilla, struttulilla, addostachilla, namuratella, no spunta ancora, zuc, 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 zucculilla, zucculilla, posta viarella, scarrupatella. A domani vogli tutti che gridano, addosso ne pochi chi è stanco chiagnere, scalinatella sali in cielo, scinna a mare, circa mille trova mille, porta ma quella sciaguratella. Che la s'è innamorata in un pittore, capita capere e parla forastiere, e i porti in pietra un dolore core, e sento che m'accide sto pensiero, scalinatella longa, 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 strutturella, strutturella, addosta quella innamoratella, non spunta ancora zucca, 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 zucculilla, zucculilla, posta viarella, scarrupatella. A domani vogli tutti che gridano, addosso ne pochi chi è stanco chiagnere, scalinatella sali in cielo, scinna a mare, circa mille trova mille, porta ma quella sciaguratella. A chiuren, a chiuren, parete nu vapor. A chiuren, amore mio, se votta mare.
Le grand Roberto Murolo dans Votre matin des musiciens, les paladins, Jérôme Corias. Et c'est vrai que là, nous sommes dans les années 1950, donc pas très éloigné, 1900, oui, il y a 30 ans qui séparent Elvira Donnarumma et Roberto Murolo. Mais là, on est passé dans une autre phase.
Oui, et alors, ce qui est intéressant, c'est que justement, après la guerre, il y a certainement eu beaucoup de choses qui ont disparu, des gens aussi qui ont disparu. Et dans les années 50-60, il y a eu un mouvement vraiment d'appropriation et de réappropriation par les Italiens du Sud en particulier, les Italiens d'ailleurs en général, mais les Italiens du Sud et les Napolitains de leur culture, de leur histoire. Et finalement, on s'est réapproprié tout un corpus de répertoire et de traditions, mais d'une façon différente. Et ça me fait penser à toutes ces cérémonies de tarentelle hein, liées à la morsure de la tarentule, justement, qui se pratiquent encore un petit peu aujourd'hui, mais d'une façon un peu touristique, je dirais, et qui ont revu le jour dans les années 50-60 parce qu'on avait envie vraiment de reprendre contact avec ces cérémonies de transe hein, collective, de femmes ou d'hommes qui se mettaient à danser complètement par terre, comme ça, à être complètement convulsionnés sous l'effet soi-disant d'une morsure de tarentule. Et ce côté un petit peu histoire de groupe, hein, cette histoire complètement ancestral, c'est à ce moment-là qu'on a voulu le récupérer et j'entends ça dans cette voix, c'est-à-dire c'est quelque chose de très poétique, quelque chose de très ancien et quelque chose en même temps qui n'est relié finalement à plus aucun courant esthétique et comme quelque chose qui se réinvente complètement et donc finalement c'est ce qu'on essaie de faire aussi aujourd'hui d'une autre façon, c'est ça qui est passionnant.
Et c'est vrai que ce genre un popolaresco et c'est vraiment un terme je pense important hein, qui est entre le savant et le populaire parce que c'est les gens la plupart du temps comme Roberto Murolo, qui avait une culture populaire très forte, bien sûr, mais aussi une culture savante très forte. C'est des gens qui savaient très bien lire la musique, qui savaient lire ce que Ricordi ou d'autres éditeurs faisaient paraître. Et donc, c'est vrai qu'il y a toujours cette dimension savante dans la chanson populaire. Alors, on va retrouver, en tout cas, quelque chose d'assez important pour les Napolitains. C'est pas mal de textes dans des cantates aussi, début 18e, qui parlent de victuailles, de bien manger.
Ah oui,
est-ce que c'est ça qu'on retrouve dans le Col Quanto si contenta un Lazzarone?
Voilà, justement, dans ce duo, qui est un duo extraordinaire, qu'on peut dater, parce qu'on ne peut pas toujours les dater, ces chansons, mais enfin, stylistiquement, on peut dire que ça date des années 1840, au même moment où Donizetti faisait ses opéras, donc il y a un côté bel canto. En fait, pour séduire une femme, finalement, c'est ce que ces deux ténors vont essayer de faire, eh bien, il faut lui parler parler de nourriture. Alors, en France, on ferait peut-être pas ça, mais en Italie, on fait ça. Et c'est vrai qu'on lui décrit ce qu'elle va manger. On va aller à Santa Lucia, qui est le quartier des pêcheurs, où on mange très très bien, hein, on mange près de la mer. Et alors, on va manger du bon poisson, on va manger des pâtes, on va boire du vin, de l'eau frizzante, de l'eau pétillante. Et alors, on décrit aussi les fruits de mer qui sautent dans les casseroles, tout ça qui boue, qui s'agite, etc. Donc, c'est vraiment un tableau très, très vivant et très humoristique, finalement. Et quand on pense que la séduction passe par là, bah, c'est quelque chose d'assez savoureux.
Alors, les paladins, c'est à vous dans ce Col Quanto si contenta un Lazzarone dans le studio 118.
Viena Santa Lucia mangiare i bei frutti del mar color d'oro che saltano 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 nel muscolo oro suone andiamo a Santa Lucia
suone andiamo a Santa Lucia.
Sole andiamo a Santa Lucia, la tua maccheroni sa già, bella mia, che bollono, bollono, bollono nel gran caldato.
Te lo strichette ti voglio comprare,
due belle spighe ti voglio donar,
l'acqua solfurea,
un biscottino,
un polpo fresco,
un po' di vino. E tutto questo per un carmino, e tutto questo per Santa Lucia, mangiare i bei frutti del mar, color d'oro che saltano, saltano, saltano nel cuscino oro. Bollono, bollono i maccheroni,
saltano, saltano nel cuscino.
Andiamo a Santa Lucia, bollono, bollono i maccheroni, su ne andiamo a Santa Lucia, saltano, saltano frutti del mare, saltano, saltano frutti del mare, bollono, bollono i maccheroni, su ne andiamo a Santa Lucia.
Les Paladins, dirigés par vous, Jérôme Coréas, dans le studio 118 avec Artavasd Sarxian et Jean-François Lombard à la voix dans ce Col Quanto si contenta un Lazzarone, napolitain, typiquement napolitain, puisque la séduction passe par le. Oui, la bouffe, la bonne
la bouffe.
Bouffe
tout exactement.
Alors, c'est vrai que tout à l'heure, on a un petit peu évoqué la question des registres, de la projection, et tout ça, c'est quand même lié aussi à deux, trois événements, deux, trois faits importants pour l'histoire de Naples. Il y a ce fameux théâtre San Carlo, construit en 1737, et qui a été construit en 6 mois, c'est un exploit littéralement, et qui est, à l'époque, la plus grande salle d'Europe. 3000 places, 180 loges, des problèmes acoustiques, mais surtout gigantisme des proportions.
Vous vous rendez compte, 3000 places, c'est plus grand que Garnier, que l'opéra Garnier.
Ah mais c'est donc incroyable.
Disons que ça remet les idées en place, hein, parce que quand on pense que la musique baroque est une musique de petites voix et de petits orchestres, je pense que ça dépend où, ça dépend quand, ça dépend dans quelle situation. Et c'est vrai qu'au San Carlo, je crois qu'il devait y avoir vraiment des grands chanteurs et des grands orchestres aussi.
Et des grands orchestres, parce qu'avec Milan, les anecdotes de l'époque le racontent, il y a deux grands orchestres, Milan... Mais celui de Naples est encore plus important.
Oui.
Et c'est vrai qu'on touche du doigt l'esthétique sonore de cette époque-là. Donc, question quand même de la projection, quand on connaît ces données-là. Mais surtout, Rossini, les 9 opéras que Rossini compose pour Naples entre 1815 et 1823. Et c'est vrai que Rossini, pour rebondir un petit peu sur ce que vous disiez, Jean-François Lombard, hérite en fait de ces castrats, il y en a encore quelques-uns, mais qui ne chantent plus. On est dans une autre ère. Et il hérite donc de la partie des castrats, il doit faire quelque chose. Du coup, du côté des ténors, on va avoir une ribambelle de déclinaisons de voix de ténors, dont le ténor de grâce, ténor de force, etc. Et puis l'importance aussi des rôles de mezzo, tout simplement. Parce qu'il faut avoir des mezzo fortes pour pallier un petit peu le fait qu'on n'a plus des castrats. Et puis ce chant rossinien, art de la coloratour, de la bellimento. J'ai l'impression que, je ne sais pas ce que vous en pensez, Jérôme, cette virtuosité, est-ce qu'elle est napolitaine ?
Elle est italienne en général. Et puis, c'est vrai que, bah oui, il faut parler des castrats et aussi de Farinelli,
dont
on reparlera peut-être. Mais Farinelli, c'est quand même le castrat qui a été le plus célèbre, une voix très certainement exceptionnelle, avec une étendue incroyable, une étendue d'alto et de soprano. Et ces grandes dispositions vocales, eh bien, évidemment, quand on n'a pas affaire à des castrats, c'est difficile de les trouver. Et on peut dire qu'effectivement, ce qu'on appelait à l'époque les contraltino, donc des mezzo, enfin, ce qu'on appelle aujourd'hui des mezzo-soprano, mais avec beaucoup de graves.
Avec beaucoup de graves, bien sûr.
Voilà, ont succédé finalement au castrat, avec évidemment, c'est une autre culture. C'est une culture, ça devient des rôles de travestie quand elles jouent des rôles d'hommes.
Mais oui, mais c'est ça qui est important, c'est que c'est pas que dans un seul sens.
Non.
Que les femmes chantent des rôles d'hommes.
Des rôles d'hommes.
Et ce sont des primadonnes, en fait.
Voilà, et on préfère finalement voir des rôles d'hommes chantés d'une façon finalement pas du tout réaliste, par des femmes, plutôt que par des castrats. Certainement parce qu'on est passé à une autre vocalité, certainement, bien que finalement tous les castrats du début du 19e siècle ont été les professeurs de chant des grandes chanteuses de la fin du 19e siècle. C'est ça qu'il ne faut pas oublier non plus. Donc c'est certainement la même tradition. Mais du point de vue théâtral, on a envie d'autre chose. On a envie peut-être de plus d'ambiguïté, parce que malgré tout, les castrats sont des hommes. Donc on a envie peut-être de plus d'ambiguïté. Et aussi, c'est vrai que le chant rossinien, on a des témoignages de l'agacement de Rossini envers les caprices des castrats. Et puis aussi leur tendance à surcharger tout d'ornements et malgré le fait que Rossini est très orné, va quand même
l'agilité rossinienne, c'est qu'un post-castrat, c'est quand même un sacré truc, quoi.
Oui, sauf que Rossini, il voulait vraiment qu'on fasse ses ornements. Il était très, très précis, il voulait qu'on fasse ce qu'il avait écrit, il voulait pas tellement qu'on rajoute. Mais malgré tout, tout le monde en rajoutait. C'est ça qui est formidable, c'est que les compositeurs ont beau exiger quelque chose, il y a quand même l'usage, il y a quand même ce qu'attend le public, ce qu'attendent les artistes et ceux qui vivent d'après la tradition dans laquelle ils sont eux-mêmes nés et qu'ils ont travaillé. Et évidemment, tout le monde en rajoutait. Et c'est très sympathique, tout ça.
Alors, pour preuve de ce que vous dites, Jérôme Corrias, l'air d'Armide, créé en 1817, à San Carlo, donc 2 ans après le premier opéra. D'amor al dolce impero. Waouh, quelle vocalité! Et c'est Joyce Di Donato qui s'y colle.
We'll be right back.
Joyce Di Donato dans un des airs d'Armide de Rossini créé à Naples au San Carlo en 1817, D'amor al dolce impero. Alors vous avez vu quand même, si vous nous rejoignez dans ce matin des musiciens avec les paladins, Jérôme Corias, cette vocalité qui hérite de celle des castrats, absolument hallucinante, et surtout qui est composée par Rossini pour sa femme en réalité, c'est vrai que c'est un truc qu'on n'a pas dit, pour Isabella Colbran,
oui,
qui crée d'ailleurs le rôle d'Armide. Hein. On s'est dit, bon, qu'il y avait, on le sait, hein, quelques petits problèmes de justesse après, à la fin. Enfin, à la fin, carrière un peu éclair, parce que je crois qu'elle chante en tout 10 ans, pas plus.
Oui, alors on ne sait pas si c'est parce qu'avec Rossini, il ne s'entendait plus, ouais, et que finalement, je pense qu'il n'a pas été très chic avec elle. Alors on ne sait pas si vraiment elle a décliné ou si c'est vraiment le résultat de leur mésentente et de leur brouille, voilà, qui a fait qu'on a gardé ce souvenir.
On s'est dit en tout cas qu'avec, si on n'a pas une bonne technique, on peut se ruiner la voix en 5 ans quand même, en chantant ça.
Oui, je pense qu'on peut ou on peut pas, hein, cette musique-là, c'est sûr.
Des aptitudes au départ aussi, je pense, de vocalise,
ouais,
ça c'est certain. Et après, oui, il y a effectivement une technique qu'il faut greffer derrière, ça c'est incontestablement.
Alors, on va du côté avec vous, les paladins, Jérôme Corias, d'un compositeur dont on ne sait pas grand-chose, Pietro Megali, mais dont on sait qu'il a vécu à Naples. Alors, on ne va pas remonter au XVIe siècle, là on est vraiment fin XVIIe, début XVIIIe. Et on ressent l'influence espagnole, c'est,
oui,
pas un hasard.
Non, c'est pas un hasard, puisque Naples a été occupée pendant 300 ans pratiquement par l'Espagne, hein, et par finalement le royaume d'Aragon qui est devenu l'Espagne ensuite. Et cette occupation espagnole a évidemment laissé des traces. On connaît évidemment la force de la musique populaire espagnole, son côté rythmique et les différentes danses. Les Espagnols aiment beaucoup la danse, tout comme d'ailleurs les Français et les Italiens. C'est un point commun qu'on a. Et c'est vrai que cette occupation espagnole, quand on regarde bien la musique napolitaine, laisse des traces au niveau de l'harmonie, au niveau des couleurs, au niveau du côté parfois un peu brusque. Voilà, j'ai trouvé ça intéressant d'inclure de la musique soit espagnole, soit influencée par l'Espagne. Et alors, c'est vrai que j'ai découvert ce compositeur, Megali, à Lecce.
Pietro Megali,
voilà.
Comment, directement dans une bibliothèque à Lecce?
Alors, en fait, j'ai découvert ça grâce à des gens de Lecce, dans les Pouilles, qui m'ont emmené à la cathédrale de Lecce, où il y a une 30-40 ans à peu près, une tentative d'imprimer le patrimoine local. C'était vraiment très, très local. Et donc, je suis tombé sur des partitions qui sont inconnues. Et je me suis jeté toute griffe dehors sur de la musique. Je suis reparti avec une grosse pile de partitions de compositeurs dont j'avais absolument jamais entendu parler. Et parmi ces compositeurs, il y avait donc ce Migali qui a un nom d'araignée. Hein.
Tarantelle, voilà,
ça fait penser à la tarentelle. Ouais. Donc quand j'ai vu Migali, ça m'a paru intéressant. Et donc j'ai vu cette musique instrumentale. Et donc je suis tombé sur plusieurs sonates, donc on va vous en présenter deux extraits. Et ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que le deuxième extrait que vous allez entendre, eh bien, c'est véritablement un fandango. Et un fandango, c'est une pièce de danse, hein, une danse espagnole, vraiment, une danse à trois temps, très très rythmée, comme ça. Alors là, c'est vraiment très clair, parce qu'on voit vraiment l'influence espagnole. Donc, si vous voulez, c'est presque une preuve, c'est très excitant pour un musicien, parce que finalement, on tombe sur quelque chose de physique qui est une partition, on regarde comment elle sonne, on la joue. Déjà, c'est une grande émotion de se dire, tiens, on est les premiers à jouer telle partition. Il y en a encore des milliers hein, à propos desquels on se dira ça. Et puis tout d'un coup, on se dit, mais tiens, ça ressemble à autre chose et ça vient d'un autre pays. Ah ben tiens, bizarrement, ce pays-là a été propriétaire du royaume de Naples. Donc vous voyez, tout ça, ça communique. C'est d'un seul coup, c'est plus le passé, c'est vraiment le présent.
Alors on vous écoute les paladins dans cette sonate complètement inédite hein, de Pietro Migali, donc deux mouvements avec ce deuxième mouvement en forme de fandango, nom de studio 118, merci à vous. Thank you. Les Paladins, dirigés par vous, Jérôme Correas, dans le studio 118, dans ces deux extraits d'une sonate de Pietro Migali, qui a vécu à Naples, qui meurt, je crois, en 1715, et qui n'a jamais été enregistrée, et avec cette espèce de fandango au deuxième mouvement, absolument incroyable.
Ouais, c'est de la belle musique.
Ah, c'est de la très très belle musique. Alors, bah justement, l'influence espagnole, quelques dates. Vous disiez effectivement 300 ans, c'est ça. Il y a eu un petit passage éclair des Autrichiens, des Habsbourg, entre 1708 et 1734, où il y a eu des bibliothèques pillées, mais c'est quand même un âge d'or de la culture à Naples. Et puis, 1734, de nouveau, Charles de Bourbon, qui deviendra Charles III d'Espagne, à la mort de son père Philippe V, jusqu'à Napoléon Bonaparte, début 19e, qui file le royaume de Naples à son beau-frère Joachim Murat. Alors, influence espagnole, c'est vrai que ça se matérialise aussi donc beaucoup dans la danse, mais qui sont quand même très souvent, comme dans l'exemple que vous allez jouer, des danses en réalité assez sophistiquées.
Oh là là, oui, très sophistiquées. D'ailleurs, la jacara que nous allons interpréter maintenant, donc avec Jean-François et Artavaz, qui chantent donc tous les deux, vraiment dans cette tradition aussi de chant populaire. C'est une danse qui a été vraiment difficile pour nous à mettre en place parce que les rythmes changent tout le temps. C'est pas du tout 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est toujours 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est vraiment, mais comme souvent finalement dans la musique populaire, il y a vraiment une complexité rythmique qui est assez admirable. Et alors, ce Antonio de Santa Cruz, c'est vraiment un espagnol. C'est une pièce que j'ai choisie parce qu'elle est assez célèbre, c'est vraiment très représentatif de ce côté très espagnol tel qu'on se l'imagine. Il faudrait rajouter en surimpression des castagnettes, mais voilà, j'ai que deux mains et tout le monde était occupé.
Voilà, vous pouvez pas jouer du clavecin des castagnettes.
Non. Hein.
Enfin, Boccherini dans son fandango disait sur la partie de violoncelle, quand le violoncelle joue pas, il peut jouer des castagnettes. Bon, mais là vous jouez tout le temps.
Ben c'est un peu ça. Mais on va en parler avec Nicolas violoncelliste.
Alors on vous écoute tout de suite dans cette jacara, les Paladins, Jérôme Correas, et c'est à vous, c'est de la grande musique. Jacara de Antonio de Santa Cruz, joué par vous, les Paladins, Jérôme Correas, dans le studio 118. Un grand, grand merci à vous. Nous sommes toujours, si vous nous rejoignez dans le matin des musiciens, dans les rues de Naples, et on insiste bien là-dessus, dans les rues de Naples, pour vous parler de cette musique au travers des siècles et de cette idée de musique populaire teintée de musique savante, bien sûr, et dans les deux sens. Et donc, dans les rues, il y a aussi une notion très importante pour les Napolitains, Jérôme Coria, c'est celle de dévotion. Alors quand même, quelques indications, parce que c'est assez hallucinant. À Naples, au XVIIIe siècle, vous avez entre 300 et 400 églises. C'est beaucoup. Ça représente en superficie un tiers de la ville. On le sait, un tiers de la ville appartient au clergé. Ce sont des églises, ce sont des monastères, ce sont des hospédales et des centres caritatifs. Vous avez 31 000 frères, 23 moniales, 50 000 prêtres, une trentaine d'institutions religieuses ou caritatives qui possèdent chacune une chapelle. Je tire ces informations du livre de Patrick Barbier, que vous connaissez bien, Jérôme Coria, sur Naples, en fait, théâtre et musique et castrat au XVIIIe siècle, bien sûr. Et alors, la question de la dévotion, c'est quelque chose pour les Napolitains. C'est vrai, on sait que les Napolitains adorent les crèches, par exemple. Le fait de voir, d'avoir un acte de piété et de dévotion, même si piété et dévotion sont deux choses différentes. Et il y a une citation d'un Irlandais qui visite Naples au XVIIIe siècle. Je vous la livre telle quelle parce qu'elle est très édifiante. « Tu désires savoir comment nous passons le temps à Naples ? Eh bien, le principal divertissement est constitué par la dévotion de nos voisins. Outre la joie qui règne dans les églises, où les gens vont voir ce qu'ils appellent une belle dévotion, una bella devozione, c'est-à-dire une espèce d'œuvre religieuse, ils tirent des feux d'artifice chaque semaine par dévotion. Les rues sont souvent décorées de tapisseries par dévotion. Et chose encore plus étrange, les dames invitent chez elles des gentils hommes et les entretiennent avec de la musique et des gâteaux par dévotion. En bref, si ce n'était pas pour la dévotion de ses habitants, Naples aurait à se vanter de peu de choses, à l'exception de son air et de sa situation. » Je trouve cette citation absolument géniale.
Et alors, ce que je trouve extraordinaire aussi, c'est que quand on voit et qu'on écoute l'opéra Cavalleria Rusticana, eh ben on a exactement, ça se passe à la toute fin du 19e siècle, eh ben on a exactement la même ambiance de dévotion. Et ça se passe dans la rue, on sort de l'église, on va dans la rue, on vient dans la rue, on va à l'église. Cette espèce de joie, cette théâtralité, c'est exactement la même chose.
Alors, écoutez justement un exemple 17e de Francesco Provenzale, qui est l'hymne du Pange Lingua pour le rituel, un rituel très très suivi d'ailleurs à Naples, des 40 heures, des 40 heures entre la mort du Christ et sa résurrection, où là on dresse des espèces, c'est pas des crèches, mais c'est des choses assez somptueuses, où on chante devant ces machina, ces machines, donc faites pour la dévotion.
Comme à l'opéra.
Exactement. C'est des opéras miniatures, en réalité. C'est justement Antonio Florio et la Cappella dei Turchini.
Thank you.
cappella dei Turchini Antonio Florio dans cet hymne du Pangelingua de Francesco Provenzale. Nous sommes dans les années 1680, en tout cas interprété à Naples et avec les paladins Jérôme Correas et vous Jean-François Lombard. On se disait quand même que cette musique a pas grand-chose de napolitaine, plutôt le modèle romain et vénitien parce qu'il y a un double chœur.
C'est un peu une musique internationale finalement.
Complètement.
Il y a des compositeurs allemands à la même époque qui composaient à peu près de la même façon. Mais justement, ça fait tomber des barrières. On met tellement d'étiquettes. On se dit qu'à tel endroit, c'est comme ça. À tel autre endroit, c'est autrement. Et il y avait certainement plus de communication. La musique voyageait. Les musiciens voyageaient énormément. Et on connaissait la musique des autres pays. Donc, je pense que... Moi, je ne connais pas bien la musique de Provençal, mais je pense qu'il a dû être très influencé par d'autres musiciens.
C'est vraiment le modèle romain.
Ouais, ouais.
Et vénitien. Ouais. Et alors, c'est vrai que pour revenir au côté populaire, hein, avec vous, Jérôme Correas, ce rituel des 40 heures et des 40 heures, donc 5 soirées au début du carnaval, c'était précisément créé par les Napolitains pour contrer un petit peu l'hystérie du carnaval et ramener les gens à une dévotion, certes populaire, mais une dévotion qui débouche sur de la prière et sur des événements musicaux pieux. Alors, il se trouve que quasiment à la même époque, il y a un air absolument hallucinant de Handel, qu'il compose pour une sérénade, pour Naples, pour un aristocrate napolitain, pour un mariage précisément d'un duc. Et donc cette cantate, c'est Assi Galatea et Polifemo.
Oui.
De Handel, composé pour 1708
ouais.
à Naples,
ah ouais.
et que vous avez chanté, Jérôme Correas.
Voilà, j'ai chanté ça dans mes jeunes années, effectivement. Oui.
C'est un air donc écrit pour un chanteur en particulier, pour une basse.
Oui. C'est-à-dire que c'est peut-être la chose la plus difficile que j'ai jamais chantée, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de notes graves et beaucoup de notes aiguës. C'est une tessiture de basse et de ténor en même temps, comme on les aimait beaucoup à cette époque-là. Et bon, il faut avoir les notes, hein, tout simplement.
Donc,
et
quand même dire pour les auditeurs, bon, c'est vrai que ceux qui ont fait un petit peu de solfège, ça va du ré grave...
Au la aigu.
Au la aigu, donc voilà. Au-dessus de la portée,
voilà.
Ce qui est du jamais vu en fait.
Ça fait 2,5 octaves. Et comme je vous disais tout à l'heure hors micro, on n'est pas très fier quand on arrive devant le public et avant de commencer cette air-là. Mais bon, c'est une expérience. Et puis au-delà de ça, c'est une musique magnifique, ça c'est sûr. Et je comprends très bien que Handel, quand il est allé jouer et créer cette œuvre à Naples, eh bien, on a essayé absolument de le retenir. Mais lui, il voulait conquérir beaucoup plus que la ville de Naples. Donc il n'est pas resté à Naples. Et c'est bien dommage parce qu'il aurait certainement fait... Peut-être qu'il se serait imprégné d'un certain style napolitain, ce qu'il n'a pas fait, puisqu'il a toujours résisté au style napolitain. Par la suite, à Rome, il a été en concurrence avec des gens comme Bononcini, mais aussi Porpora, qui était un vrai napolitain, vrai de vrai. Et Handel a très rarement composé dans ce style napolitain. Il y a peut-être 2 ou 3 airs dans ses opéras où il s'est dit « Tiens, je vais un peu faire couleur napolitaine », mais sinon, il a résisté à cette influence. Voilà, parce qu'il a été influencé par la musique française aussi, et puis par bien d'autres choses. Mais ça a été un passage éclair.
Oui, vraiment éclair. On ne sait pas combien de temps il est resté, mais vraisemblablement, moins d'un mois.
Ouais.
Et surtout, ça nous dit qu'il y avait des chanteurs absolument hallucinants, parce que ouais. 1708, Farinelli, avant ce premier concert en 1720, donc il a 3 ans, tout simplement, parce qu'en 1720, il a 15 ans. Donc ça veut dire qu'il y avait des castrats formidables, ça on le sait, mais qu'il y avait aussi des chanteurs dans d'autres tessitures formidables, dont soi-disant ce père Antonio Manna, qui aurait créé le rôle. On ne sait pas trop s'il était vraiment prêtre. En tout cas, ce père Antonio Manna, c'est vous qui le chantez, là. Ce rôle de Polifemo, placé sous la direction, donc en concert, d'Emmanuel Haïm.
Spenta la face.
Jérôme Corias en concert en 2000 au festival de Beaune dans ces terres incroyables de Polyphémo, de la sérénade de Handel Assi Galatea et Polyphémo, donc composé pour le père Antonio Manna, créé en 1708, tessiture extrême, qui nous dit quand même qu'avant d'arriver aux opéras écrits pour Naples par Rossini, nous sommes un siècle avant et qu'à Naples, au-delà de Farinelli, ça chantait bien dans toutes les tessitures. C'est une des choses les plus hallucinantes, je trouve, de la musique baroque, et donc les plus difficiles, vous nous disiez, Jérôme Corias.
Oui, tout à fait. On aime bien les extrêmes dans la musique italienne. Hein. C'est une musique très théâtrale, voilà, avec beaucoup, en même temps beaucoup de poésie. C'est ça qui est amusant, c'est que, et finalement assez émouvant, c'est qu'il y a beaucoup de poésie, d'intériorité, et en même temps quelque chose de très extrême et très sorti, comme ça. C'est quand même assez fascinant, ce mélange.
Ré grave, l'aigu. Alors, pour continuer justement dans les rues de Naples avec vous, les paladins, il y a trois genres qu'on peut aborder ensemble, à savoir la villanelle, la tarentelle, on fera un petit saut du côté de la tarentelle du Gargano, et puis la nenia. Mais avant cela, donc, on va vous entendre dans un petit exemple de villanelle. Quelle est cette esthétique, Jérôme Corias?
Alors, l'esthétique de la villanelle, effectivement, il y a trois genres dans la chanson, vraiment, alors vraiment populaire, hein, traditionnelle napolitaine. C'est ce genre de la villanelle, donc ce sont des chansons de paysans, des chansons donc, qui se chantent en général avec guitare, à plusieurs, hein, donc deux ou trois voix, chansons chantées par des ténors d'ailleurs en général, ou des voix d'hommes voilà, plus largement. Ce sont toujours des chansons assez vigoureuses qu'on pourrait chanter comme ça à l'extérieur, en s'amusant, peut-être même comme dans le film Riso Amaro, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, mais où on entend les femmes qui cueillent le riz, qui récoltent le riz, ça se passe plutôt en Italie du Nord, mais elles chantent tout en travaillant. Donc c'est peut-être des chansons aussi pour travailler, vous voyez, pour donner le rythme, hein, comme on fait d'ailleurs en Afrique ou ailleurs. Ça, c'est très sud hein, aussi, les gens qui sont dehors toute la journée. Donc ça, c'était voilà, un genre très, je dirais, très physique, comme ça. La tarentelle, bah, effectivement, ça fait référence à cette piqûre de la tarentule et puis de tout ce qui s'ensuit pour, je dirais, nettoyer tout le groupe. Voilà,
sous ce côté. Ça, c'est la thérapeutique symbolique, hein, quand même, parce oui. que c'est vrai que... On se dit que si cette musique a été tant redonnée dès les années 60, il y a ce livre aussi de Ernesto de Martino, assez dense sur le tarentisme.
Oui.
Pino De Vittorio, bien sûr, on va l'entendre. Mais que c'est comme un revival très très oui. fort autour de ça. Quoi.
Oui, tout à fait. Ceci dit, moi j'ai mis les yeux dans un livre ancien justement sur la tarentelle et les piqûres, etc. Je crois que ça vient vraiment de la plus profonde antiquité. Il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. C'est très très symbolique, c'est très presque dionysiaque, vous voyez. Il y a un côté très bien sûr religieux, en même temps tellement profane et en même temps tellement religieux que peut-être nous on a du mal à comprendre aujourd'hui. Et cette espèce de mode de rédemption passion par quelque chose qu'on pourrait même qualifier d'hystérie collective. Je pense qu'on n'est pas armés, nous, Français, pour vraiment comprendre ça.
Sur cette idée que c'est, la musique doit rentrer en résonance avec un mal intérieur.
Oui, c'est ça. Alors, en même temps, c'est très moderne.
Complètement.
Et d'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle « La Terra del Rimorso ». Donc, c'est-à-dire « La Terre du remords ». Et « rimorso », on peut traduire par « remords », mais « remords », ça veut dire aussi « être remordu ». Mordu à nouveau.
Morsure.
Et donc, vous voyez, c'est très intéressant parce que le remords, c'est quand on est remordu par quelque chose. Donc, c'est très symbolique. L'araignée, elle est là juste pour symboliser tout ce qu'on est, nous. Elle donne un petit coup de pouce, l'araignée, si j'ose m'exprimer ainsi. Donc, c'est, voilà, c'est très, très, très dense, très, très compliqué.
Et on écoute justement, peut-être, vu qu'on y est, Jérôme Corresse, un petit extrait de cette Tarantella del Gargano, très, très connue.
L'acqua sorge di via, ia ia fa corri l'acqua sorge di via. Coppa se la mette na, coppa se la mette na, coppa se la mette na, scello a cantari. E na, scello a cantari. Dopo sulle merda nasce lo a cantare, cantava e repulsava e cantava e repulsava.
La tarantelle del Gargano, Pino de Vittorio, tarantelle lente, en tout cas c'est un bon filon commercial, c'est vrai, depuis quand même une bonne vingtaine d'années, et c'est de la belle musique, mais ce n'est pas que ça aussi, et c'est vrai que dans les genres qu'on abordait avec vous, Jérôme Corias, avant d'arriver sur la Nenia, il y a cette fameuse villanelle. Vous avez préparé un petit exemple, Amor lasciami stare, c'est-à-dire Amour laisse-moi, de Villanelle.
Voilà, donc c'est ce côté très direct, très paysan. Hein. Villanello, ça veut dire paysan. Et donc, on demande à l'amour d'une façon très rythmique et très autoritaire, comme ça, de nous laisser tranquille, lasciami stare, ça veut dire laisse-moi tranquille, tiens-toi loin de moi. Et on a voilà, ce côté très direct. Et pour revenir à ce qu'on vient d'entendre, effectivement, on imagine toujours que la tarentelle est toujours très rapide et très ta-da-da-da-da-da-da-da-dam, pa-pa-pa-pam, etc. Et là, on avait un exemple de tarentelle lente et peut-être plus poétique, plus délicate. Voilà, il y a plein de tarentelles différentes.
Tarentelles différentes. Alors maintenant, c'est la villanelle.
Et maintenant, c'est la villanelle. Et là, on revient vers quelque chose de plus, voilà, de plus terrien.
Alors, on vous écoute Les Paladins dans le studio 118.
Amor, lasciami stare, te non mi tormentare. Amor, lasciami stare, te non mi tormentare. Poiché io vivo lontano, dal mio bel sole sospirando in vano. Poiché io vivo lontano, dal mio bel sole sospirando in vano. Non sai che chi è fedele, oh donna, chi è crudele. Non sai che chi è fedele, oh
Madonna, chi è crudele, merita per ragione degli suoi guai aver compassione. Merita per ragione degli suoi guai aver compassione.
Un petit exemple de Villanelle, Amor, lasciami stare par vous les paladins dans le studio 118. Et donc on arrive à la troisième forme importante pour la musique napolitaine, c'est celle de la nenia. Nenia, qu'est-ce que ça veut dire, Jérôme ?
La nenia, c'est une complainte. Donc là, on est dans quelque chose de plus lent, de plus poétique. Et au lieu de choisir une nenia vraiment populaire, eh bien, j'ai choisi donc une pièce que Jean-François Lombard et Rémi Cassaigne vont chanter et jouer, donc pièce ténor et guitare, une pièce du début du 19e siècle, qui est une pièce écrite par Corigliano di Rignano, qui était un napolitain, un guitariste. Et pour moi, c'est une nenia, c'est-à-dire c'est une complainte. Tu sol mi ascolti, c'est-à-dire toi seul m'écoute, et quelque chose voilà, de très intérieur, et peut-être Jean-François
Lombard.
Oui, c'est très intérieur et très poétique. En même temps, dans l'écriture, il y a un petit rappel de Rossini dans la vocalité, dans la mesure où on a quand même quelques vocalises. L'ambitus est relativement important, ça descend dans le grave, et on va jusqu'au si bémol aigu. Donc ça rappelle un tout petit peu l'écriture rossinienne. Peut-être par exemple, je sais pas, l'italienne à Alger, ou voilà, les airs de Lindoro qui sont relativement doux. Et ce qui est intéressant, c'est de travailler sur la couleur en fait de la voix, qui évidemment est un petit peu traitée différemment avec une guitare.
Alors en plus, guitare, je le dis, hein, devant Rémi Cassaigne qui sourit et qui a une guitare de 1810,
oui,
napolitaine, donc d'origine, que Rémi a achetée à Naples.
Nous avons pratiquement fait ce programme donc, pour lui et pour sa nouvelle
voilà,
guitare.
Donc vous lui avez acheté la guitare, non, ben, il se l'a acheté tout seul comme un grand. Mais en tout cas, un magnifique instrument.
Oui, c'est un magnifique instrument et qui permet vraiment de travailler sur les timbres, et évidemment sur les nuances, sur des couleurs très piano.
Bien sûr, parce que c'est une projection particulière aussi.
Oui, c'est une projection particulière. Et moi, je trouve que le mélange guitare et voix est vraiment très intéressant parce qu'il n'y a pas de lutte, si je puis dire. On imagine souvent la chanson, évidemment, napolitaine avec des ténors très vaillants, ce qui peut être le cas aussi. On a tous en tête des Pavarotti ou
les
Roberto Alagna
qui
peuvent faire ça, évidemment, avec des voix de ténors beaucoup plus lyriques. Mais c'est intéressant aussi de voir cet autre aspect plus poétique de la complainte qui permet.
Et qui évoque le salon aussi. Hein,
quelque
chose qu'on peut aussi évoquer, c'est celle des le répertoire de Seguidi, de Fernando Sor,
en
Espagne, parce que c'est vraiment ça, musique d'académie. Académie au sens baroque, mais qui se poursuivent début 19e siècle, où des lettrés, des aristocrates, des petits bourgeois se réunissent dans une trentaine, quarantaine, et écoutent justement ce genre de musique.
Oui, on peut écouter ça dans les cours.
Oui, c'est ça. Oui.
Alors, on vous écoute tout de suite, Jean-François Lombard, avec Rémi Cassaigne dans ce « Tu sol mi ascolti ». Et non, nous ne sommes pas les seuls à vous écouter, puisqu'il y a les auditeurs du Matin des Musiciens.
Piangere da
Je parle tout doucement, Jean-François Lombard et Rémi Cassaigne, dans cette Nenia, tout seul, mi ascolti, interprétée par vous dans le studio 118. Alors un grand merci à vous, les Paladins, Jérôme Corias et merci à toute l'équipe, parce que vraiment on a fait un bon tour des rues de Naples, hein, entre le 17e, 18e et 19e.
Oui, c'est vrai qu'on a entendu pas mal de choses différentes. Je trouve que ça donne vraiment une idée de la richesse, en tout cas, de la musique et de la culture napolitaine, et ça donne envie d'y retourner finalement.
Et c'est un programme que vous donnez dans pas très longtemps, mais à Potsdam, le 29 juin, chez Toutes Sans Souci.
Oui.
Jérôme Corias, dans les rues de Naples, c'est exactement ça, avec une chorégraphie et une mise en scène.
Oui, nous le donnons d'ailleurs d'abord en concert au festival à l'abbaye de Ligugé, qui se trouve près de Poitiers. Nous le donnons le 27 juin à l'abbaye.
On vous met les dates, bien sûr, sur le site.
Et le 29, on a la grande chance de le donner au festival de Potsdam.
En extérieur, devant 4000 personnes.
2500, ça suffira, mais effectivement, voilà, devant le château de Frédéric II. Enfin, c'est un cadre absolument extraordinaire. Et on va voir comment les Allemands vont réagir à cette proposition napolitaine.
Alors, Jérôme Corias, les Paladins, vous n'êtes jamais monté sur le Vésuve. On pourrait peut-être y monter une dernière fois.
Ah oui, avec plaisir.
Bah, vous avez compris.
Ça va chauffer.
Ça va chauffer. Donc merci à vous. On se quitte avec le Funiculi Funicula. Mais avant cela, donc un grand merci à vous, Jérôme Corias.
Merci à
vous.
Merci
beaucoup. Et merci à Artavast Sarxian, Juliette Roumaillac, Marion Korkmaz, Nicolas Krejanski, Franck Ratajic et vous, Jean-François Lombard. Un grand merci à vous sept. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Ieri sera io la mine me la saiette, tu sai ad o. Ad o, stu core in grette chiudi spiette, farlo un po'. Ad o, lo fu che cusce ma si fuie, te la so sta. E non tu core fresse non tu struie, sulla guarda. Yam, yam, gop, yam, 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 gop, yam, yam, funiculi, funicula, funiculi, funicula, gop, yam, yam, funiculi, funicula. Ne yam, dalla terra alla montagna, non passi in se vette Francia prosciutta la Spagna, io becca te. Girata ancora fun d'inter fatte, gela se va. Se va, com'è l'unghietta l'ingrasante, poi sai che sa. Iam, iam, dopo, iam,
lessa lessa aiutte la cappa già e ghiotte può tornate può venute sta sempre ca la cappa vota vota turna turna ma turnate stu cor canta sempre nutta l'urne scusamo i
Funiculi Funicula, interprété de nouveau par les paladins Jérôme Coréas dans le studio 118 pour refermer ce matin des musiciens avec un programme que vous redonnez donc le 27 juin au Festival de Ligugé. Le 29 juin à Potsdam dans les rues de Naples, donc avec la chorégraphie de Anna Yepes et la mise en scène de Olivier Collin. Et puis Rameau, 10 juillet au Festival Baroque de Toulon. Le 23 juillet, Festival Toulouse l'été, les opéras pour la paix. Et puis pour finir, le Festival Baroque du Mont Blanc le 18 juillet pour un programme Les Quatre Saisons de Marc-Antoine Charpentier.
Oui, pas de Vivaldi.
Intéressant. Un grand merci à vous. Alors, Claire Lagarde a réalisé cette émission. Laura Jachimiak m'a aidé à la préparer. Avec aujourd'hui la prise de son et le mixage, Stéphane Desmonts et Sacha Tropp. Passez un très très bon lundi à l'écoute de France Musique. Vous pouvez bien sûr podcaster cette émission. Toutes les infos sur le site de francemusique.fr. Vive la musique, vive les musiciens. Ciao, bye bye.